Bonjour Denise et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour.
Alors on est très heureux de vous avoir, surtout que vous allez nous parler donc d'un sanctuaire qui va très très bientôt être connu, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, c'est en train de se faire. J'ai entendu ça dans les couloirs.
D'accord. Alors,
Voilà.
Denise,
Mais
peut-être.
c'est déjà un sanctuaire assez connu, hein, dans le monde entier.
Oui, voilà, il est déjà bien actif.
Oui.
Voilà. Et alors peut-être, Denise, pouvez-vous vous présenter brièvement pour nos auditeurs?
Oui, donc moi je suis Denise Colson, animatrice en pastorale, c'est-à-dire salariée du diocèse pour un mi-temps. Et dans ce mi-temps, donc j'ai une lettre de mission du Père évêque Monseigneur Gégère. Et dans cette mission, il y a une partie qui est à l'accueil des pèlerins au sanctuaire ici à Hamet.
Alors, Denise, alors justement, où se situons-nous géographiquement?
Alors, Hamet est à 7 kilomètres de Lillers, hein. Donc l'autoroute Reims, enfin Calais-Reims, on passe à Lillers et à 7 kilomètres, il y a ce petit village d'Hamet, hein, qui est sur les collines d'Artois.
On est dans le Pas-de-Calais, hein, c'est ça?
On est dans le Pas-de-Calais, oui.
D'accord. Et c'est d'ailleurs pas étonnant puisque le saint en question, hein, est originaire de ce village.
Il est né ici à Hamet le 26 mars 1748.
Alors Saint Benoît Labre, alors on va peut-être justement, vous allez nous en parler, Denise, un petit peu de ce saint qui était considéré comme un saint itinérant et mendiant, hein, c'est ça?
Oui. Enfin, mendiant, pas dans le sens de mendier, c'était un mendiant de Dieu, hein,
Mendiant de
dans
Dieu,
ce sens-là, mendiant de Dieu.
Oui.
Et donc ce saint, oui, très tôt, très enfant, il priait beaucoup. Hein. C'est un saint qui, enfin, il priait beaucoup. C'est un enfant qui aimait beaucoup être seul en prière avec Dieu. Et voilà, son souhait, c'était d'être moine, de rentrer dans un monastère. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'il était trop jeune ou s'il n'avait pas une très bonne santé. Et puis aussi, ben, parce que quand il était enfermé, il devenait, on va dire, dépressif, quoi, hein, angoissé. C'est quelqu'un plutôt de dehors.
Oui.
Et donc les moines, un jour, lui ont dit que peut-être Dieu l'attendait ailleurs que dans les monastères. Donc il est parti sur les routes d'Europe. Donc il est allé en Italie, beaucoup en Italie, à Lorette, en Italie, à Rome, bien sûr, à Assise, à Naples, et puis aussi en Suisse, en Allemagne, en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis aussi les sanctuaires du sud de la France. Il a beaucoup voyagé. On compte aujourd'hui à peu près à 31 000 kilomètres le chemin parcouru à pied.
Oui, c'est énorme. Hein. Il a passé son temps à marcher. Et
oui.
Alors justement, alors là, on est à quelle époque exactement, Denise, à peu près?
Alors là, il a quitté définitivement sa maison pour marcher à 21 ans. Hein. Donc de 21 ans à 31 ans, il a fait tout ce chemin. À 31 ans, il avait vraiment les jambes en mauvais état, les genoux très très abîmés. Et donc de 31 ans à 35 ans, il est resté à Rome et là, il a prié dans toutes les églises qu'il pouvait avoir sur son chemin.
Et là,
donc il a fait ça en 10 ans à peu près.
Oui, et puis là, à Rome, il y a le choix, il y a de quoi faire, si je puis dire.
Oui, voilà, donc il trouvait toujours une église ouverte. Hein.
Oui.
Parce que, bon, quelquefois, elles étaient fermées la nuit, mais bon, il arrivait toujours à trouver une église qui lui convenait pour prier.
Alors j'ai lu quelque part qu'il a même parfois dormi dans le Colisée, non?
Oui, ben à Rome, il dormait quelquefois sous un porche, sous des escaliers, et dans le Colisée de Rome, il dormait aussi parce que il priait pour tous ceux qui étaient tous les martyrs, hein, qui sont morts dans ce Colisée. Il priait beaucoup pour eux. Ça l'a touché.
Et alors, Denise, je disais par rapport à l'époque, on est à quel siècle là?
Là, on est au siècle des Lumières, donc 18e siècle.
On est au 18e, hein? Oui.
18e siècle, on appelle le siècle des Lumières, le siècle aussi des inventions, des grandes inventions, hein, la montgolfière, l'encyclopédie, et puis aussi des penseurs aussi, hein, qui amenaient une autre pensée, une autre façon de penser qui n'était plus forcément par la religion chrétienne, quoi.
Oui, et alors justement,
les philosophes, voilà.
Les philosophes, oui.
Oui.
Et alors Saint Benoît Labre, il était déjà connu de son vivant, hein.
Oui. Oui, c'était un homme qui étonnait beaucoup parce que il avait un aspect misérable parce que forcément il était toujours sur les routes et puis disons sa situation physique ça n'avait pas d'importance pour lui, son aspect physique, et du coup il était vraiment dans un sale état, il se lavait pas et du coup il était repoussant. Et les gens pensaient que c'était un mendiant, mais en fait c'est un mendiant de Dieu. Hein, il ne demandait rien, il prenait si on lui donnait. Et cet aspect assez repoussant étonnait les gens parce que d'un autre côté, il savait lire, écrire, qui était étonnant à cette époque. Il avait beaucoup d'éducation et il priait beaucoup. Les mendiants bandiaient souvent aux portes des églises, mais n'entraient pas beaucoup pour prier, mais lui, il priait beaucoup. Et donc, il étonnait les gens par sa façon de prier. C'est pour ça qu'avant sa mort, quand il est mort, on a dit le saint est mort, parce que cet homme, les gens pensaient que ça pouvait être qu'un saint. Un homme qui priait autant comme ça, ça pouvait être qu'un saint.
Oui, alors je crois, Denise, qu'il est mort à Rome, et je crois que les enfants ont crié en disant « le saint est mort, le saint est mort » pour annoncer la mort de saint Benoît.
Annoncer sa mort, voilà. Donc, on l'appelait là-bas à Rome le saint français. Hein, quand on le voyait passer, on disait « ah, il y a le saint français qui est là ». Voilà, donc c'est pour ça que quand on a dit le saint est mort, on savait qui il était.
Et j'ai lu également qu'il, quand il arrivait, quand on lui donnait des choses, des biens ou de la nourriture, il le distribuait immédiatement aux plus pauvres que lui. C'était un exercice de charité constant chez lui.
Oui, il était très très, très scrupuleux. Il n'aimait pas que quelqu'un ait faim. Hein, quand ça lui arrivait de faire la queue pour avoir un bol de soupe, hein, ce qui était courant à cette époque, il veillait toujours à être le dernier pour que personne n'ait faim après lui. Et il prenait vraiment, vraiment ce qu'il devait manger pour sa journée. Hein. Il ne gardait rien pour le lendemain. Quelquefois, il s'est fait même frapper parce qu'il redonnait à d'autres ce qu'on venait de lui donner.
Il a subi des vexations, des humiliations. Oui, il a toujours tendu l'autre joue.
Hein. Voilà.
Et alors, Denise, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un saint? Alors, bien, il était connu de son vivant, mais ensuite, donc après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Église?
Dans les quelques jours qui ont suivi sa mort, d'abord, il est mort chez le boucher qui habitait à côté de l'église, hein, qu'il connaissait bien, qu'il lui donnait quelquefois à manger. Et il y avait tellement de monde qui venait le voir chez le boucher qu'il a dû demander au prêtre de mettre le corps de Benoît dans l'église à côté. Et l'église n'a jamais désempli des 5 jours qui ont suivi. C'est comme c'était la semaine sainte, hein, il est mort le mercredi saint 16 avril, et les gens n'ont pas pu célébrer des messes tellement il y avait du monde qui voulait voir le corps de Benoît. Et il y a eu plus de 200 miracles au cours de ces quelques jours-là.
Voilà, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que tout de suite, il y a eu des miracles.
Il y a eu des miracles,
tout de suite après son inhumation, ça a été très rapide. Hein.
Oui, très rapide, oui.
Et ensuite, comment est venue la reconnaissance de l'Église après ?
Son procès de canonisation a commencé très tôt, hein. Donc un mois après sa mort, déjà c'était commencé, mais ça a duré 90 ans, hein, parce qu'il a fallu enquêter, aller voir tous les gens, tous ses confesseurs, voilà. Hein, mais ça a duré 90 ans, donc il a été reconnu saint en 1881.
D'accord. Alors pour revenir au lieu, donc le sanctuaire, c'est son lieu de naissance, hein, là où vous êtes.
Oui, là où on est, il y a encore sa maison natale, hein, la maison où il est né, avec c'était une famille de 15 enfants, donc lui il était l'aîné, et c'était des fermiers. Bon, la maman tenait un petit commerce de mercerie, c'est-à-dire elle tenait à disposition de quoi raccommoder pour les gens de son village. Et c'était une famille très très pieuse, c'était vraiment des chrétiens assez dévoués, et puis c'était pas non plus des pauvres, hein.
Et alors, Denise, le pèlerinage, est-ce qu'il a commencé à peu près à quelle époque sur son lieu natal?
Dans l'église, il y a une belle peinture qui remonte à 1873. Parce qu'on voit un grand pèlerinage en 1873. Mais bon, je ne peux pas vous dire exactement à quelle époque ça a commencé.
En tout cas. Oui, au 19e siècle, il y avait déjà un pèlerinage. Hein.
Oui, voilà.
Justement, là où vous êtes...
Une centaine d'années après sa mort, déjà, il y avait le pèlerinage.
Oui. Alors, vous disiez, Denise, l'église, alors quel est le nom de l'église?
Saint-Sulpice.
C'est Saint-Sulpice, un autre saint.
Saint-Sulpice, oui.
Et alors, comment ça se passe alors aujourd'hui au niveau sur le plan des activités? Peut-être vous allez nous parler aussi de cette reconnaissance en tant que sanctuaire.
Non, je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est tout récent, c'est tout frais, j'ai entendu ça dans les couloirs.
Oui, donc on va attendre.
Alors, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, hein, parce que je suis qu'en mission ici, animatrice de ce lieu, mais je ne suis pas dans les décisions, mais j'ai entendu ça ce week-end.
Alors en tout cas, ce sera, j'imagine, peut-être le nom du sanctuaire, Saint-Benoît-Labre ou...
Comment... Saint-Benoît-Joseph-Labre. Hein.
Saint-Benoît-Joseph.
Et après, je ne sais pas quel nom ils vont prendre.
Hein. Oui, tout à fait.
Donc, moi, comme je suis animatrice de ce lieu, donc j'accueille les pèlerins qui viennent en groupe, hein, c'est des groupes de pèlerins. Donc, on a une salle qui s'appelle l'Abri du Pèlerin, une grande salle où on accueille ces groupes, hein, les bus qui viennent. C'est beaucoup de jeunes aussi, de collégiens, des collégiens, des lycéens. Hier, il y avait 115 adultes, enfin dire, c'était des familles, c'est un pèlerinage en famille. Donc, tous ces pèlerinages qui viennent comme ça, ben moi j'anime leur journée, je leur propose un diaporama sur la vie de Saint-Benoît. Il y a des activités, il y a des jeux, il y a des rallyes, il y a des marches proposées avec des pauses. Voilà, il y a toute une animation autour de ce saint qui est proposée selon les âges, selon les personnes. Voilà, donc ça c'est mon rôle de...
Et alors, Denise, alors justement, est-ce qu'il y a, et à quel endroit se trouve le tombeau du saint? Est-ce qu'il y a également, par exemple, des reliques du saint? À quel endroit?
Alors, le tombeau du saint, il se trouve à Rome, hein, dans l'église Sainte-Marie-des-Monts. C'est là où il passait beaucoup de son temps. C'était une église dans un quartier populaire. Il y a des reliques qui sont au diocèse, bien sûr. Hein, il y a le haut du crâne, il y a des... Voilà, ici à Metz, nous avons quelques petites reliques, hein, dans des reliquaires, mais bon, c'est vraiment des petites choses, hein, donc on a quelques reliquaires. Et puis aussi, il y a des reliques qui se sont un peu éparpillées aussi dans divers endroits. Je sais qu'il y a une basilique Saint-Benoît-Labre à Marseille, mais j'y suis jamais allée.
Ah oui, d'ailleurs on trouve des lieux qui mentionnent le nom du saint à Saint-Benoît-Labre dans différents endroits géographiquement, voilà. Et même à l'étranger. Hein.
Et même à l'étranger, il y a notamment au Québec, il y a la fraternité Saint-Benoît-Labre.
Hein. Oui, c'est le nom d'une fraternité là-bas, oui.
Donc on les appelle sur le site, quand on veut regarder, c'est les Amis de Saint-Benoît-Labre. Et on tombe sur le site du Canada. Et du coup, quelquefois, les gens ils passent par ce site pour venir, pour réserver, pour venir ici à Metz. Et le prêtre, le père Martel, il me renvoie les mails. On correspond comme ça. Voilà.
Et alors, justement, Denise, est-ce que dans l'église, l'église Saint-Sulpice, vous avez des représentations? Vous avez quelque chose qui mentionne le saint?
Oui, on a par exemple une des chaussures qu'il portait à sa mort dans le reliquaire. Nous avons aussi un masque, une copie du masque mortuaire, hein, pour avoir l'empreinte de son visage. On a un morceau du cordon qu'il avait à la taille, le cordon tertiaire des franciscains, il avait reçu à Assise. Et puis, on a aussi la paillasse sur laquelle il est mort à Rome, chez le boucher. Donc, il est mis dans une châsse avec une représentation du saint dessus. Hein, c'est une représentation. Et puis, il y a aussi un morceau de couverture, des oreillers de chez le boucher.
Et alors Denise, justement, les personnes qui viennent en pèlerinage, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, rechercher dans ce lieu?
Souvent, ils disent que ce lieu, il leur permet de se recueillir, de vider un peu leur sac, de prier. Et puis, quand ils voient un peu la vie de ce saint qui vraiment a vécu dans un dépouillement, hein, il possédait rien, et bah les gens quelquefois ils se réfléchissent de dire qu'est-ce qui va faire mon bonheur? Est-ce que c'est je mets mon bonheur dans les choses matérielles ou est-ce que je reviens à l'essentiel de ma vie? Vous voyez, ça permet de faire le point, hein, et puis aussi de déposer un peu toute leur souffrance. Et lui, Benoît, qui possédait rien et qui pourtant était heureux.
Oui, c'est un saint extraordinaire qui a vécu dans un dépouillement extrême. Hein, qui...
Voilà, exactement. Et à l'heure d'aujourd'hui, où on s'attache beaucoup aux choses matérielles, hein, on pense qu'on peut être heureux avec posséder beaucoup des choses. C'est sûr qu'il en faut, mais du coup, on fait un peu le point en disant qu'est-ce qui va me rendre heureux. Finalement, c'est la rencontre avec l'autre, avec les autres, qui nous rendent aussi heureux. Hein.
Oui, de fois, on devient peut-être un peu prisonnier des choses auxquelles
oui.
on tient.
Exactement, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Et là, on revient à l'essentiel, et puis on se dit, ben, vous voyez, hier, c'est un pèlerinage en famille, et voilà, ils prennent conscience ben, que finalement, on peut être heureux sans posséder beaucoup de choses, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir des choses, hein.
Bien sûr, oui.
C'est la présence des autres, en fait, qui nous rend heureux, parce que, vous voyez, dans les cahiers de prières qui sont mis, on voit ce que les gens viennent demander, justement, surtout dans le relationnel, de se réconcilier avec les enfants, de se réconcilier avec les parents, avec les frères et sœurs, ou les couples, vous voyez. C'est beaucoup, être ensemble, créer des liens.
Oui, retrouver une paix dans les relations, une harmonie dans les relations.
Voilà, hein, c'est ça. Beaucoup de liens, vous voyez, les grands-parents vers leurs enfants, leurs petits-enfants. Bien sûr, il y en a qui demandent des choses matérielles, mais c'est beaucoup de se réconcilier, hein, de faire que mes enfants reviennent, de faire que mes parents, on s'entend bien, on se revoit on s'entend plus entre frères et sœurs, vous voyez, c'est vraiment, ça les touche, quoi, le fait de recréer des liens entre eux.
Et alors, Denise, quels sont les temps forts de l'année? Alors, j'imagine qu'il y a peut-être le temps fort qui correspond à la fête du Saint, mais est-ce que vous avez des temps forts particuliers?
Oui, donc, bon, bien sûr, il y a la fête, le 16 avril, qui est la fête de la mort de Benoît, hein, la Saint-Benoît-Joseph-Labre, et puis aussi, à partir du dernier dimanche de août jusqu'au premier dimanche de septembre, il y a une neuvaine. Hein, donc pendant 8 jours, il y a 3 messes par jour, à 8h, à 11h et à 19h, et puis des animations dans la journée, des conférences, chemin de croix, adoration, pendant 8 jours.
Et donc la neuvaine à Saint-Benoît-Joseph-Labre.
Voilà. Hein, donc, j'ai pas en tête là, la date. Ça commence du dernier dimanche de août jusqu'au premier dimanche de septembre. Donc là, ce sera du 26 août au dimanche de septembre.
D'accord. Et vous, Denise, est-ce que vous êtes entourée d'une équipe? Vous avez le père de l'Église, j'imagine, le prêtre.
Est-ce qu'il y a le prêtre, qui est l'abbé Jean-Paul Azlar, hein, oui. Et qui est en même temps recteur du pèlerinage. Donc, on prépare des choses ensemble, hein. Pour animer ce lieu, moi je suis toute seule, mais j'aime bien m'entourer de gens. Donc il y a vraiment des bénévoles qui sont là tout autour et qui entretiennent l'église et qui font des choses. Faut ouvrir l'église, fermer l'église, l'entretien. Il y a toujours des bénévoles. Il y a à peu près, au cours de cette neuvaine, il y a à peu près une quarantaine de bénévoles qui sont actifs.
D'accord, oui. Là, c'est le temps fort de l'année, hein, fin août, début septembre.
Le temps fort de l'année, et puis après, il y a des gens qui habitent ici dans le village et aux alentours qui faut entretenir la maison, il faut l'ouvrir, la fermer, il y a les pelouses, les parterres, et les fleurs, l'église, la sacristie, tout ce qu'on peut trouver, et les linges d'église, tout ça, il y a toujours des gens qui sont là autour et qui donnent des coups de main.
Et Denise, est-ce que vous avez aussi la capacité, par exemple, en plus des pèlerinages, par exemple, pour une journée avec des jeunes, des enfants, des collégiens, de recevoir aussi des groupes pendant plusieurs jours? Est-ce qu'il y a une capacité d'accueil ou c'est en projet?
Moi, dans la salle, je n'ai pas de capacité d'accueil, mais par contre, il y en a qui viennent camper. Hein. Donc, oui. Cet été, pour la première fois, nous avons accueilli des gens du voyage qui ont fait un pèlerinage en début juillet. Et donc, ils ont leur caravane et tout ça. Et dans la pelouse, on a une grande pelouse, donc ils se mettent là. Et puis, ils avaient mis un chapiteau pour les prières, les messes et tout ça. Et quelquefois, il y a des scouts aussi qui viennent camper, passer quelques jours. Des groupes viennent passer quelques jours, c'est toujours en campant. Hein.
Oui, oui.
C'est camping. Et donc, il y a la salle pour leur activité. Et puis, ils dorment sous tente. L'été dernier aussi, on a reçu à peu près un pèlerinage en vélo, donc ils venaient de Lille. Hein, donc ils sont venus en vélo, ils ont fait 3-4 jours dans le coin et ils étaient à peu près 180 à 200, donc ils ont tous campé là dehors. C'était assez... Voilà, c'était... On a ressenti beaucoup d'émotions et beaucoup de partage avec eux.
Oui, alors justement, donc ça, on ne pourra pas trop en parler, hein, Denise, parce que ça reste encore du domaine, ça reste confidentiel, mais en tout cas, ce lieu va devenir un sanctuaire, ça on peut quand même le dire, ça va devenir un sanctuaire et vous nous tiendrez au courant, en tout cas, que j'ai regardé également sur Internet, vous n'avez pas encore de site Internet vraiment dédié
au lieu. Non, il n'y a pas de site Internet,
pas encore, hein.
Je n'ai pas le temps de l'ouvrir. Par contre, au diocèse d'Arras, il y a une page Saint-Benoît-Joseph-Labre que j'alimente de temps en temps.
Hein. Donc on peut inviter nos auditeurs.
Diocèse d'Arras.
Voilà, on va inviter nos auditeurs s'ils veulent en savoir plus. Et puis s'ils passent dans le coin, ils peuvent déjà se renseigner sur le site internet du diocèse d'Arras.
Diocèse d'Arras, et puis ils tapent paroisse ou Saint-Benoît-Joseph-Labre, ils vont tomber sur le site de Saint-Benoît. Donc je mets un peu la réflexion des gens qui sont passés ou aussi tout ce qui est proposé, hein, les activités qui sont proposées pour une journée. Voilà, donc ils vont trouver tout ça, ils vont trouver mes coordonnées.
En tout cas, Denise, on aura peut-être l'occasion de reparler du sanctuaire une fois que ce sera officiel sur Radio Maria. D'autant plus que, vous savez, Radio Maria France, on va visiter tous les sanctuaires du pays. Et c'est surprenant de constater qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et en plus, Radio Maria sera accessible aussi dans la région d'Arras, hein, bientôt, parce qu'on va avoir une fréquence en numérique. Donc ça permettra peut-être encore de développer des échanges ou des émissions à venir dans le futur.
Oui, tout à fait.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Denise Colson, pour toutes ces informations.
De rien. En tout cas, ce que je voulais dire, moi, c'était vraiment très agréable comme ça d'accueillir des pèlerins qui viennent ici. Pour moi, ça m'enrichit beaucoup et c'est vraiment comme une nourriture.
Voilà, donc chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas, allez vous recueillir à l'église Saint-Sulpice sur les terres d'origine de Saint-Benoît-Joseph-Labre et puis de rencontrer Denise qui se fera une joie de vous guider pendant ce passage.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Denise Colson.
De rien, au revoir. Merci. Une bonne journée.
Merci, bonne journée. Au revoir, Denise.
Au revoir.